Vous écoutez
RMC. RMC, en route pour Paris 2024.
Le compte à rebours affiche aujourd'hui 90 comme le nombre de jours qui nous séparent de l'ouverture des Jeux Olympiques 2024. D'ici le 26 juillet prochain, la flamme olympique poursuit son périple sur terre et sur mer, puisqu'après avoir été allumée à Olympie le 16 avril dernier, elle a rejoint hier Athènes, la capitale grecque, d'où elle a embarqué, vous l'avez vécu ce matin sur RMC, à bord du Bel M, le plus vieux 3 mois français, pour une traversée de la Méditerranée, direction Marseille, où son débarquement est prévu le 8 mai prochain. Tout cela sous la supervision de Nicolas Pelletier et Julien Richard, nos spécialistes olympiques de la rédaction RMC Sport, qu'on retrouve en direct d'Athènes. Salut messieurs.
Salut Simon.
Alors, je le disais à l'instant, la flamme a pris la mer et pas encore l'eau, fort heureusement. Racontez-nous le beau moment, Julien, Nicolas, que vous avez vécu ce matin à Athènes. Vous n'étiez pas tout seul sur le quai pour son départ.
La corne de brume, vous l'entendez pour sonner le départ du BLM, avec un peu d'avance sur l'horaire prévu d'ailleurs. Il est un peu avant 10h, le BLM a largué les amarres, escorté par un bateau antique grec propulsé avec des rames. Le BLM, le plus ancien voilier d'Europe en activité, 127 ans, construit en 1896. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, 1896, mais c'est la même date que les premiers Jeux Olympiques de l'ère moderne.
Christophe Cessieux y était, je crois.
Ouais. Ici, à Athènes. Et Christophe Cessieux a de très beaux souvenirs, oui, paraît-il. Le Bélème avec sa précieuse cargaison, hein, pas de fèves de cacao comme à ses débuts, mais là aussi, il n'y a rien à voir avec Christophe Cessieux, mais bien la flamme olympique est à son bord. Et c'est Tony Estanguet, le patron des Jeux de Paris, qui est monté donc à bord du Bélème et qui a monté la petite lanterne qui accueille la flamme originelle allumée il y a 11 jours maintenant à Olympie, une flamme que le triple champion olympique a reçu très officiellement hier des mains du président du comité olympique grec lors d'une cérémonie au stade Panathénaïque, le stade antique, puis des premiers jeux de l'ère moderne. Tony Estanguet.
Je dois reconnaître que hier, moi, dans le stade, quand on m'a donné cette lanterne avec la flamme olympique dans les mains, là, j'ai senti qu'on avait passé un petit cap, là. Et c'était une étape symbolique très forte. Aujourd'hui, effectivement, nouvelle étape très importante. Cette flamme, elle prend le chemin de la France. Et à partir du 8 mai, c'est le début de notre aventure, de nos jeux. On se sent prêt, on a hâte.
Voilà, grosse émotion aussi pour ceux que l'on appelle les éclaireurs. 16 ouais. Jeunes sélectionnés pour accompagner la flamme sur le trajet vers Marseille, que l'on a rencontré quelques minutes avant le grand départ.
On est excités, donc on va vivre une aventure extraordinaire.
Hâte de commencer les manœuvres, de commencer la vie d'équipage en fait. C'est un moment vraiment extraordinaire qu'on va vivre et on se rend pas compte là au départ.
Ramener la flamme olympique, c'est quand même une chose incroyable et c'est pas tout le monde qui fait ça, donc autant en profiter un maximum et...
Ça va passer très vite, donc autant profiter maintenant.
Curieux présents sur les quais du port du Pirée et des Français notamment aussi qui avaient fait spécialement le déplacement de Normandie.
C'est vraiment quelque chose de très puissant qui donne beaucoup d'émotions. C'est un peu, ouais, il n'y a pas vraiment de mots, mais c'est juste magique, quoi. Voir la flamme de nos propres yeux, c'est extraordinaire.
J'ai retrouvé mon âme de 17 ans. C'était fantastique. C'est le rêve de ma vie que j'ai vécu hier et aujourd'hui. De voir le départ de la flamme pour la France et démarrer les Jeux Olympiques comme ça, c'était un moment d'émotion, mais inoubliable pour moi. Quand Gabriela Papadakis a récupéré la flamme, j'ai ressenti une émotion comme j'ai rarement ressenti dans ma vie. Je suis pas quelqu'un d'extraverti et les larmes sont venues. J'ai pleuré de voir la flamme dans les mains de Gabriela Papadakis.
Allez, séchez vos larmes, le Bélème est parti. On a aperçu ses trois mâts quitter au large le port du Pirée. Il a hissé les voiles, direction Marseille, 12 jours de traversée.
Et oui, 12 jours, tu le dis, Julien, je vais me tourner vers Nicolas. Donc, arrivée est prévue le 8 mai prochain. Faut pas être pressé tout de même pour aller d'Athènes à Marseille. Quel est le programme à bord?
2500 km, Simon, 2500 km.
Il faut, avec les voiles hissées dès la sortie du Pirée, je suis sûr qu'on peut accélérer. Du coup, quel est le programme à bord Nicolas, on imagine que la précieuse flamme est très surveillée, très protégée à l'intérieur du BLM.
Elle est installée dans le pont inférieur, dans une salle de vie du BLM que l'on a pu visiter jeudi matin avec le capitaine du BLM. On a pu entrer dans cette salle et donc la flamme olympique, la lanterne de la flamme olympique sera installée sur un comptoir. Et donc c'est à cet endroit que tous les matins, le capitaine du BLM va faire son brief. Il nous expliquait qu'il considère cette flamme olympique comme un invité ultra VIP, comme un chef d'État pratiquement. C'est la 60e personne à bord de ce BLM pour cette traversée de 2500 km entre Athènes et Marseille. C'est un moment fabuleux qu'on l'on va vivre à Marseille le 8 mai. Mais entre Athènes et Marseille, il y a aussi plein d'escales. Alors même si le bateau ne va pas toucher terre, mais il y a plein de points très précis que le bateau va passer, notamment entre la Sicile et l'Italie continentale. Ça sera magnifique, notamment dans les Bouches de Bonifacio. Ça sera la première fois que le Belém touche les eaux territoriales françaises et puis arriver à Marseille le 8 mai. Donc c'est un parcours assez fabuleux pour ce trois-mâts français qui ne navigue qu'à la voile, on le rappelle, pas de moteur, sauf pour faire les manœuvres dans le port.
Et comme un club de foot anglais, il n'est jamais seul aussi, puisque il va naviguer sous protection. Il y a un navire de
un bâtiment de la marine
nationale qui va suivre le Belém tout au long de son parcours. Et il y aura un premier passage assez sympa, notamment c'est le canal de Corinthe. Mmh. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est pas très très loin, hein, pour
qui est fermé actuellement,
qui est fermé, qui va être ouvert juste pour le Belém, avec une espèce de corridor avec des falaises très abruptes. C'est très impressionnant et ce seront forcément des images, et on verra des images tout au long de ce parcours assez impressionnant.
Et ça va faire une magnifique image pour la belle carte postale qui va se dessiner jusqu'à l'arrivée de cette flamme à Paris. Vous en parliez à l'instant, on va peut-être écouter le capitaine du Belém, Émeric Gibé, qui était évidemment très ému et très sollicité ce matin avant le départ.
Il parle de la flamme, ouais, il parle de la... comment il va l'accueillir, cette flamme.
C'est-à-dire que la flamme, elle sera visible de tous en permanence. Donc cette idée de considérer un peu la flamme comme un passager, alors très très VIP, très discret peut-être, mais qu'il faut surveiller, surtout pour qu'elle ne s'éteigne pas. Au début, on va l'accueillir dans le salon. Puis on verra aussi, selon les conditions météo, si on peut la déplacer à bord. Moi, je ne m'interdis pas qu'elle puisse visiter un peu l'ensemble du bateau. Elle voyagera aussi, elle déambulera sur le bateau pour sûr.
Elle déambulera sur le bateau pour sûr. Attention au coup de vent tout de même. On imagine que des précautions ont été prises.
Il y a deux lanternes qui sont dans le bateau avec deux flammes. Donc voilà, on a pris toutes les précautions du côté de Paris 2024 pour ces lanternes. Et il y en a même qui vont voyager en avion pour rejoindre directement la France.
Et ces petites lanternes, elles sont pas plus hautes font 40 cm. Oui, 40 en gros, cm. C'est un peu comme des lampes tempêtes en gros. Hein. Mmh. Donc il y a des vitres, la flamme est évidemment sécurisée et c'est alimenté par de la paraffine. En fait, c'est une mèche qui trempe dans la paraffine. Donc voilà, ils ont pris un gros sac à dos avec pas mal de recharges. Il faut la recharger tous les 8 heures, la lanterne. Les trois gardiens de la flamme, il y a trois gardiens.
Elle est très petite, la flamme.
Qui seront à bord. Voilà,
elle est très peu visible dans la lanterne.
Ils sont chargés de veiller à tout ça.
Comme quoi, on a beau essayer, on n'a rien inventé de mieux que la bougie. Arrivé le 8 mai prochain, on le disait, sur le vieux port de Marseille. Tiens, les auditeurs, j'en profite pour vous préciser que RMC délocalisera son antenne, évidemment, à Marseille. Journée spéciale sur l'antenne de RMC à vivre dès le matin. Les grandes gueules en direct du Vieux-Port, le Super Moscato Show, l'Intégral Sport. Journée spéciale consacrée à l'arrivée de la flamme olympique sur le territoire français, la métropole. Justement, messieurs, qui va récupérer cette flamme? Bon, c'est depuis hier, je vous laisse nous l'annoncer.
Oui. C'est la surprise du chef, Tony Estanguet.
Il était quand même favori.
Oui, qui était.
On en parlait.
On s'attendait pas à ce qu'il nous le donne dans son discours, mais dans son discours, Tony Estanguet, patron de des Jeux dans le stade panathénaïque, a annoncé que donc Florent Manaudou descendrait, donc serait le premier porteur de flamme sur le sol français. Donc il sortira du Belém avec cette petite lanterne et il va aller allumer une vasque sur le vieux port à Marseille. Florent Manaudou, c'est le champion olympique de Londres du 50 mètres nage libre, palmarès gigantesque en natation. Il va disputer ses derniers jeux, en tout cas il espère disputer ses derniers jeux à Paris, parce qu'il n'est pas encore qualifié officiellement. Il faudra qu'il passe par les sélections au mois de juin, et il pourrait décrocher une 4e médaille consécutive olympique sur 4 éditions, donc sur la même épreuve, sur le 50 mètres nage libre. Faut juste, pour replacer le truc, ça s'est jamais fait en France évidemment, mais dans la natation mondiale, il n'y a que Michael Phelps qui a décroché 4 médailles consécutives dans 4 éditions des Jeux sur une même épreuve. Là, le 50 mètres nage libre en l'occurrence pour Florent Manaudou.
Tony Estanguet l'a rappelé hier, Julien, c'est pas n'importe quelle épreuve de natation. Le 50 mètres nage libre, c'est quand même la fosse au lion, quoi. C'est quand même une des épreuves les plus...
Et c'est Tony Estanguet hein, qui a fait ce choix-là.
C'est lui seul.
Et d'ailleurs, voilà, il le défendait à notre micro hier et ce matin encore. Écoutez Tony Estanguet.
Florent est coché toutes les cases. C'est l'un des plus grands champions en activité aujourd'hui. 4 fois médaillé olympique sur 3 Olympiades consécutives dans peut-être l'une des épreuves les plus difficiles, les plus serrées, le 50 mètres nage libre. Il est licencié à Marseille. C'était très important pour moi de retrouver ces champions sur leur territoire, de là où ils ont commencé le sport, là où quelque part ils vivent le sport, pour que les Français aussi redécouvrent et soutiennent. Florent, il a besoin d'énergie. Il va falloir qu'il aille chercher une nouvelle médaille à Paris. Et je trouve que c'est formidable de le mettre à l'honneur, parce que les Jeux, c'est d'abord des athlètes, et Florent, c'est quand même un sacré athlète.
Et Florent, il est licencié au Cercle des Nageurs de Marseille, mais c'est pas forcément le Marseillais qu'on attendait, Nico.
Non, on attendait plutôt Zinedine Zidane pour se marquer l'histoire, pour marquer la France, pour avoir une image à l'international. Mais c'est aussi un très bon choix d'avoir Florent Manaudou, avec les deux éclaireurs marseillais qui sont à l'intérieur du Belém. Maintenant, les deux jeunes Marseillais qu'on a pu croiser jeudi nous disaient, nous on veut absolument Zinedine Zidane qui monte sur le Belém le 8 mai prochain. Mais donc ça ne sera pas Zizou qui montera sur le Belém. Il y a d'autres étape, c'est ce que nous a confié aussi Amélie Oudéa-Castéra ce matin, la ministre des Sports nous disait, il y aura peut-être d'autres surprises tout au long de ce relais de la flamme jusqu'au 26 juillet 2024. Pourquoi pas, on très peu à l'imaginer, mais pourquoi pas en tant que dernier relayeur aussi le 26 juillet à Paris. Mais donc, Zidane, il reste une option aussi le 9 mai par exemple, le lendemain à Marseille, pour cette journée aussi très importante du relais de la flamme à Marseille. Et puis, on a posé la question à la première adjointe au maire de Marseille. Bien Qu'est-ce sûr. Qu'elle en pensait, Michèle Rubirola, de ce choix de Florent Manaudou et donc de ne pas sélectionner Zinedine Zidane? Michèle Rubirola.
Il est vrai qu'on attendait Zizou, comme moi j'aime aussi beaucoup Zinedine Zidane. Alors il y en a certains qui seront déçus, probablement, mais bon, on est très content que ce soit aussi Florent. Bah, Zidane, on est toujours déçus, on a toujours des regrets, mais c'est un Marseillais. Voilà.
Bon ben oui, on va pas non plus se mettre à pleurer parce que Zidane.
C'est un Olympien qui va descendre là. La symbolique est très belle, la symbolique est magnifique, et il y a la boucle qui est bouclée. L'or, la grande sœur, championne olympique à Athènes il y a 20 ans, qui a été la première porteuse française donc de cette flamme à Olympie il y a une grosse dizaine de jours maintenant lors de l'allumage, et puis le frangin, le petit frère et son maître 99, son gorille tatoué l'un de ses tatouages sur le bras, qui va porter cette flamme et qui a une vraie énergie à donner. Au-delà, on sait, il est candidat pour être porte-drapeau. Donc on va voir aussi si ça l'un empêche l'autre. Tony Estanguy nous disait que visiblement non, ça n'était pas corrélé du tout. De toute façon, ce sont les athlètes qui vont voter, mais voilà, il a une énergie à apporter.
Les athlètes peuvent aussi se dire, il a déjà fait ça et on va donner ça.
Mais voilà, il y a un vrai truc à apporter au-delà de lui, sa performance individuelle. On sent vraiment que depuis quelques temps, il est aussi dans le collectif, ça lui tient vraiment à cœur. Et que ce genre de mission, je trouve que c'est une belle façon de mettre en avant les sportifs français. Et des énormes palmarès comme celui de Florent Manaudou.
Voilà, et puis palmarès olympique, sans faire injure à Zinedine Zidane. Personne ne remet en question sa place dans l'imaginaire populaire français, sa place dans le sport français. Mais bon, peut-être qu'un Florent Manaudou est plus olympique compatible, en tout cas une image plus en rapport avec les sports olympiques. Justement, messieurs, vous avez commencé à l'évoquer. Est-ce que vous, qui êtes nos spécialistes olympiques à la rédaction, vous avez des petites infos? On peut faire le pari que cette flamme, elle passe sera un moment ou un autre entre les mains de Zinedine Zidane, d'ailleurs, sur son trajet vers Paris. Est-ce que vous avez des infos sur le parcours? On en a. Il est très, il va mettre en lumière, en valeur, tout ce qui fait le rayonnement de la France à l'international. Est-ce que vous avez des indices sur le dernier ou la dernière relayeuse de cette flamme où il faut attendre encore un petit peu?
On a posé la question à Pierre Abadan, qui est l'adjoint à la maire de Paris en charge des Jeux Olympiques. Il nous disait ce matin que Marie-Josée Pérec serait quand même... on cite beaucoup Marie-Josée Pérec pour être dernière relayeuse à Paris. Mais en tant que suiveur, je vais demander à Julien, mais moi je pense quand même qu'il y aura le 26 juillet à Paris un relais, un duo peut-être pour allumer la flamme olympique, un homme et une femme pour allumer cette vasque olympique qui sera installée aux Tuileries pendant la quinzaine olympique. Donc c'est très difficile de savoir. Après, tu parlais du relais de la flamme partout en France, il y aura un autre moment important, il y a le 8 mai qui est à Marseille, il y aura un autre moment important, c'est le 14 juillet lorsque la flamme va descendre, non pas les Champs-Élysées, parce que le défilé du 14 juillet en raison des Jeux Olympiques n'aura pas lieu sur les Champs-Élysées, mais va descendre avec les militaires présents jusqu'à Nation, va descendre cette zone là avec la flamme olympique. Ça sera aussi très impressionnant, ça sera une image très impressionnante, et puis après elle va faire le tour de la France, elle va même aller en Outre-mer, cette flamme olympique, à bord d'un trimaran,
Maxi trimaran.
Donc voilà, elle va parcourir toute la France, des images à couper le souffle bien évidemment, mais pour le dernier relayeur, moi je pense que ça sera un duo. Et je ne sais pas ce qu'en pense Julien, mais moi je pense un duo.
Alors attention, je vais reprendre l'expression favorite de Paris 2024. On aime bien casser les codes. Donc, casser les codes jusqu'au bout, qu'est-ce que ça voudrait dire? Je sais pas. Mais les paris sont lancés. Pour l'instant, c'est plutôt bien gardé.
Mais pour l'instant, c'est pas casser les codes. L'or, c'est une symbolique en Grèce, 20 ans après.
On casse les codes ici.
Et Florent à Marseille, qui est originaire de Marseille.
Bon, vous avez quelques heures pour vous mettre d'accord. Celle qui vous sépare du trajet retour à Paris, je vais vous libérer, messieurs, en direct d'Athènes. Julien Richard, Nicolas Pelletier, vous avez un avion à prendre et nous, on a besoin de vous encore ici, d'ici au 26 juillet, cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024, les Jeux de Paris dans RMC, la radio officielle, vous le savez évidemment. Avant ça, le 8 mai, journée spéciale sur l'antenne de RMC, la flamme qui arrivera en France en provenance d'Athènes. Florent Manaudou, donc, qui sera le premier porteur de la flamme sur le sol français, antenne spéciale, les grandes gueules, le super Moscato Show, l'Intégral Sport, tout ça en direct du Vieux-Port à Marseille. Merci beaucoup Julien, merci beaucoup Nico. On vous retrouve évidemment sur l'antenne de RMC très prochainement pour évoquer cette montée en puissance à 90 jours maintenant de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. En route vers Paris 2024, votre rendez-vous olympique, ça continue dans un instant avec notre invité. Vous ne bougez pas, l'Intégral Sport revient dans quelques secondes. Nous, pendant ce temps-là, on poursuit notre magazine olympique en route pour Paris 2024 avec un focus aujourd'hui sur le basket-fauteuil qui figure au programme paralympique. On est ravis d'accueillir Sofiane Meyaoui, meneur de jeu de l'équipe de France, qui nous fait le plaisir de passer une tête dans le studio RMC. Salut Sofiane, merci d'être là, d'avoir accepté notre invitation.
Salut Simon, je suis très content d'être là. Merci à RMC Sport de m'avoir invité.
RMC Radio officielle, évidemment, des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Avant de parler de ton actualité, de ta discipline, le basket fauteuil, on a plein de choses à apprendre. Petit mot d'abord sur cette Coupe de France, cette finale féminine entre Basketland et Bourges, ton pronostic?
Pour l'instant, c'est un match très serré, donc à deux points, c'est dur de donner un pronostic, mais je pense que
avant Bourges, le match, tu voyais qui?
Bourges,
ouais. Ouais. La revanche à prendre, la déception de l'élimination.
Exactement. En playoff, ça. En général, ça endurcit et ça renforce l'envie de se dépasser.
Sofiane Meyaoui, meneur de jeu de l'équipe de France de basket-fauteuil, qualifié pour les Jeux Paralympiques de Paris 2024, est notre invité dans l'Intégral Sport. Avant, je le disais, d'évoquer l'actualité de l'équipe de France basket-fauteuil. Petit mot également sur la flamme olympique. On a vécu en direct son départ ce matin d'Athènes, direction Marseille. Je t'ai entendu hier sur le service public, toi, parler de cette flamme. C'est quelque chose qui provoque quelque chose dans ton imaginaire. Ça marche encore, la magie de la flamme olympique?
Oui, bien sûr, c'est magique parce que c'est un moment solennel. En plus, on l'a vu hier, vu que ça faisait deux éditions qu'a pas eu lieu le relais. Donc, on l'a senti hier. C'était vraiment très fort. Je me souviendrai toujours de Tony Stanguet qui avait le sourire, qui n'arrêtait pas de sourire. Donc, on voyait qu'on a passé un cap vraiment important. Donc, non, c'était vraiment un moment très fort.
Oui, ça, effectivement, c'est le grand décorum des Jeux. C'est les Jeux en route vers Paris, comme le titre de notre magazine, arrivé prévu à Marseille le 8 mai, je le disais, où RMC délocalise son antenne, les grandes gueules, le Super Moscato Show, l'Intégral Sport, tout ça en direct du Vieux-Port avec Florent Manaudou, le premier relayeur de la flamme sur le sol français. Mais Sofiane, tout d'abord, félicitations, puisque l'équipe de France de basket fauteuil a obtenu tout récemment sa qualif pour le tournoi paralympique. C'était le 16 avril dernier à Antibes. Vous avez battu le Maroc 87 à 60. Bah pour parachever, hein, ce qui a été un sans faute, succès face à l'Iran, d'un point.
D'un point, exactement.
Ça a été compliqué, ouais. 64-63. Et puis victoire face au Canada et aux Pays-Bas. Donc ça, 4 victoires, 0 défaite, bilan parfait. Et ce précieux ticket d'entrée au jeu, plus de 20 ans après la dernière participation des Bleus. On devine que tu es un homme heureux.
Un homme très heureux. C'était très important de gagner, d'être là, parce qu'en plus moi je suis parisien, donc avoir les Jeux à Paris c'était important. Donc d'être présent c'est encore plus important, de pouvoir jouer devant ma famille, devant mes amis. Donc on pouvait pas passer à côté. C'était pas possible. Donc c'est vrai qu'on fait un tournoi parfait parce qu'on gagne tous nos matchs en poule, donc on finit premier de notre poule et forcément en match de croisement, bon, on joue l'équipe la plus faible, donc du coup le Maroc qui a pas démérité, qui a tout donné et bon, on a été les plus forts, donc voilà, c'est tant mieux.
On précise que ce tournoi de qualification paralympique, c'est une première dans l'histoire des Jeux, puisque l'IPC, c'est le Comité Paralympique International, a réduit de 12 à 8 le nombre d'équipes qualifiées. Du coup, le pays hôte s'est vu privé de l'assurance habituelle de participer à ce tournoi à domicile. Est-ce que ça a été un motif d'inquiétude, de stress pour les Bleus?
Oui, complètement. Comme tu l'as dit, ça faisait 20 ans qu'on ne s'était pas qualifié pour les Jeux, donc forcément, on avait beaucoup de stress. C'est vrai que nous, on n'est pas professionnels, donc on joue contre des nations qui sont professionnelles. Donc forcément, quand j'ai joué en Italie ou en Turquie, je m'entraînais deux fois par jour. Donc forcément, et quand les autres athlètes allaient en équipe nationale et qui étaient payés, nous, on n'était pas forcément aussi bien encadrés et préparés. Je pense qu'il a fait vraiment la différence cette année, c'est qu'on a eu une grosse préparation. Je pense que la Fédération Handisport a voulu nous aider et a mis vraiment les moyens. Donc on a eu un tournoi de préparation en Belgique. Ça s'est très mal passé parce qu'on a perdu tout le match. Et c'est là où on s'est dit, bon, il faut réagir, on a compris ce qui allait pas. Et deuxième tournoi en Espagne, on a vraiment fait des bons résultats parce qu'on a battu l'Espagne, on a battu aussi le Canada, on a battu les Anglais qui ont été champions du monde dans le passé. Et donc, du coup, ça nous a permis au tournoi d'Antibes de faire ce résultat-là.
Oui, un petit peu de ressentiment contre l'IPC et puis un petit peu de mobilisation. Bon les gars, il faut qu'on aille se la chercher celle-là. Ça.
C'est vrai qu'on n'a pas trop compris parce que c'est vrai que le basket de fauteuil c'est le sport historique du monde paralympique. Ouais. Je regardais la dernière fois justement les premiers Jeux paralympiques. Tous les sportifs étaient en fauteuil. Donc aujourd'hui les sportifs en fauteuil c'est une part beaucoup moins. Et donc c'est vrai de pas qualifier la France d'office, c'était incompréhensible. On en reparlera peut-être après les Jeux, mais c'est vrai que même aujourd'hui, les 8 qualifiés, il n'y a pas une équipe africaine, il n'y a pas une équipe d'Asie, pas une équipe d'Amérique du Sud. Donc c'est vrai que ça devient des Jeux un peu de riches, on va dire. Mais bon, on va essayer de. Nous, voilà, on est concentré sur le jeu et de faire un résultat à Paris.
Alors, 90 jours, je le disais tout à l'heure, c'est ce qui nous sépare de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Pour les Paralympiques, ce sera un mois plus tard, le 28 août. Ça y est, maintenant que le billet est en poche, l'impatience se fait sentir.
L'impatience, bon là on est un peu plus relax parce qu'il y avait cette pression de la qualification. Donc là on va retourner tranquillement au calme et petit à petit reprendre les entraînements, reprendre les stages d'entraînement, les tournois de préparation. J'ai souvent, quand on a joué à très haut niveau et qu'on sait l'effort qu'il faut pour atteindre ce très haut niveau, bon maintenant on sait de quoi on est capable, on sait comment on peut se préparer pour retourner à ce haut niveau et faire un si bon résultat et du coup on sait comment on va se préparer.
Donc là, on savoure quand même un petit peu la qualification, la préparation. Elle va prendre quelle forme? Il y a des stages, vous allez vous retrouver pour...
Oui, comme tu dis, on savoure. Et c'est vrai que là, on va bientôt reprendre des stages d'entraînement. En général, on se retrouve au Krebs de Bordeaux. C'est un peu notre lieu, notre Clairefontaine.
Je connais bien.
Où on se retrouve là-bas et on s'entraîne parce que aussi les lieux sont accessibles. Donc c'est aussi plus pratique. Donc voilà, des tournois aussi. Parce qu'on a compris que jouer, c'est très important. Mmh. Il faut faire des matchs amicaux. Il faut pouvoir se prendre des fessées et comprendre ce qui va pas. C'est important.
Important de prendre des fessées, effectivement. Sofiane Meyaoui, meneur de jeu de l'équipe de France de basket fauteuil, invité d'En route pour Paris 2024 sur RMC. C'est votre rendez-vous olympique et paralympique chaque week-end. L'équipe de France masculine qui a, rappelons-le, décroché il y a une dizaine de jours sa qualification pour les Jeux cet été. Justement, Sofiane, quels sont vos objectifs pour ces Jeux à domicile? Une médaille de quel métal?
Une médaille, c'est sûr. Après, le métal, je pense que tout dépend en demi-finale sur qui on peut tomber.
Il y a des équipes imbattables, même pour une grosse équipe de France.
Je pense qu'aucune équipe est imbattable. Le plus gros, pour nous Français, le plus dur, c'est nous-mêmes, je pense, parce qu'on a vraiment une très belle équipe et dans beaucoup de sports, la France, je pense que c'est vraiment nous-mêmes la première difficulté. Donc, si nous on arrive à jouer comme on l'a fait et à jouer ensemble, on pourra battre n'importe qui.
Alors Sofiane, le basket fauteuil, il présente quelques particularités, notamment celle de réunir sur le parquet 5 joueurs qui se voient chacun attribuer une note de 1 à 5. Et l'addition des notes présentes sur le terrain ne pouvant pas, au niveau international, dépasser la somme de 14. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer cette particularité? Selon quels critères sont fixées ces notes? À quoi correspondent-elles? Et quelle est ta note?
Bien sûr. Alors chaque joueur a une classification en fonction de son handicap qui va de 1 à 4,5. Pas à 5. 5, c'est pour les personnes valides.
Alors oui, c'est ça. Exactement. Parce que je précise qu'en France... Les personnes valides peuvent pratiquer le basket fauteuil.
Exactement. Et elles sont assises. Par contre, elles sont obligées d'être assises.
Et la note de 5.
Voilà. Exactement. Donc, en fait, chaque joueur est classifié en fonction de son handicap qui va de 1 à 4,5. Une personne paraplégique, par exemple, qui ne peut utiliser ses membres inférieurs, qui ne sera pas très stable sur son fauteuil et forcément va être assis bas pour que son centre de gravité soit plus bas, va être classé 1 point. Une personne, un athlète amputé en dessous du genou va être classé 4,5. Pourquoi ? Parce qu'au contraire, il va avoir tous ses muscles, ses fessiers, ses quadriceps.
En fonction qu'on comprenne bien de la mobilité, de l'aisance à se déplacer. En gros, plus le handicap est important, plus la note sera petite.
Exactement, plus la note sera petite et la somme des 5 joueurs sur le terrain ne doit pas dépasser 14 points. Et ça, c'est très important parce que ça permet dans chaque club d'avoir une équipe équilibrée et de ne pas se retrouver avec une équipe avec que des paraplégiques, par exemple, ou une équipe avec que des amputés. Donc ça répartit et surtout ce que je trouve très intéressant, c'est que ça permet à chaque joueur dans sa classification de se dépasser, à être le meilleur dans sa classification. Et même dans le cas d'invalide, invalide qui jouerait avec nous, nous ça nous pose pas de problème parce que son objectif c'est d'être le plus fort parmi les 5 points ou même voir les 4,5 parce que les 4,5 ont cet avantage-là quand ils sont amputés, d'être plus légers, donc ils sont forcément plus rapides, plus forts qu'une personne qui est 5 points. Donc c'est là que tout est intéressant. Moi, je suis 3 points. Donc, parce que j'ai une maladie quand j'étais petit qui s'appelle la poliomyélite et du coup qui m'a touché beaucoup la jambe droite et très peu la jambe gauche. Donc, j'ai cette capacité avec la jambe gauche de pouvoir prendre appui et ça m'aide énormément parce que je peux prendre des rebonds sur une roue. Si je tombe, je peux me relever tout de suite. Donc, c'est un gros avantage. Donc, vraiment, on a des médecins du sport qui vont essayer de comprendre, essayer de voir quel muscle peut aider à accompagner.
Et justement, ces notes, elles sont fixées par un panel d'observateurs, de médecins, de techniciens du basket. Qui se charge de ça?
Oui, c'est des médecins vraiment spécialisés au basket fauteuil qui ont l'habitude et qui nous classent quand on commence le basket fauteuil. Et c'est ce qui est sympa, c'est que quand on commence, en général, on peut être classé 3 points comme moi. Et puis au fil des années, à force d'entraînement, à force de se dépasser, on a des muscles qui vont compenser d'autres muscles. Du coup, on est capable de faire certaines choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Et des fois, tu as certains joueurs qui peuvent dire « Mais Sofiane, toi, tu n'es pas 3 points, tu vas être 3,5, 4 points. » Mais quand j'ai commencé, j'étais vraiment 3 points.
J'allais demander s'il y avait des contestations parfois.
Il y a toujours des contestations, c'est clair.
sur ces classifications. On rappelle, donc en France, donc les valides peuvent pratiquer le basket fauteuil, ils se voient attribuer la note de 5. Est-ce que c'est autorisé aux Jeux Paralympiques?
Non, ce n'est pas autorisé aux Jeux Paralympiques. Par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est que les filles et les garçons jouent ensemble en championnat. Pas en équipe de France, mais en club, c'est un sport qui est mixte. Donc c'est vrai qu'en termes d'inclusion, on dit valide, filles, garçons, donc voilà, tout le monde peut jouer au basket fauteuil.
Et ça permet, j'imagine, de constituer plus d'équipes et de rendre le championnat plus attractif. Sofiane, toi, tu as joué en Italie et en Turquie, tu joues désormais à Mo, au Hurricane 92 Basketball, en région parisienne, pour ceux qui ne situent pas bien. Tu as aussi connu le VAR du côté de hier, il y a quelques années. Quel regard tu portes sur l'évolution de ta discipline, sur la place de la France dans le développement du basket fauteuil?
Donc c'est vrai qu'à l'étranger, j'ai pu voir une différence déjà en termes d'intensité d'entraînement, en termes aussi de reconnaissance. Je me souviendrai toujours quand j'étais la première fois où j'arrive en Italie, où souvent ma qualité c'est d'être très rapide, donc de vraiment très rapide. Et en France, souvent on me disait Sofiane, attends les autres, va pas trop vite en attaque. Quand je suis arrivé en Italie, mon premier entraînement,
ils t'ont dit accélère.
Au contraire, ils m'ont dit accélère. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'attends les autres? Donc ils m'ont dit d'attaquer, partir en contre-attaque. Bien sûr, si ça marche pas, d'attendre. Et de placer le jeu. Donc voilà, donc beaucoup de différences aussi, un staff, un encadrement différent, s'entraîner deux fois par jour, on avait le préparateur physique, on avait l'assistant coach, et le coach, bizarrement, il arrivait toujours à la fin de l'entraînement, il faisait 5-5, et là on travaillait le système de jeu pour le match. En France, on voit que ça évolue quand même énormément, parce que c'est vrai que la France est quand même un pays qui essaye de suivre un peu ce que font les autres nations. Donc on progresse, c'est un beau championnat cette année, donc oui, c'est positif.
Bon, on rappelle, l'équipe de France de basket fauteuil masculine qualifiée pour le tournoi paralympique le tournoi des Jeux paralympiques de Paris 2024. On rappelle des cérémonies d'ouverture le 28 août prochain. Petite déception pour vos homologues féminines qui n'ont pas réussi à vous accompagner. Vous avez suivi cette petite
déception. Oui, on a suivi. Malheureusement, c'était un peu difficile pour eux, un peu triste parce que
c'était samedi dernier au Japon.
Ouais. C'est ça, c'était samedi dernier au Japon, donc c'était pas évident. C'est vrai que malheureusement, le championnat féminin, il n'y a pas de championnat féminin en France. Donc c'est assez dur. C'est pour ça que les filles peuvent jouer avec les garçons. Mais voilà, c'est jouer ensemble, se retrouver, c'est pas forcément évident. Si tu me permets, je voulais juste le préciser pour le basket fauteuil, pour ceux qui ne connaissent pas, savoir que les paniers sont à la même hauteur, 3,05 m.
La ligne à 3 points, pareil, distance FIBA.
Tout exactement pareil.
Rappelle-moi, c'est 6,75 m.
C'est ça, exactement.
C'est un peu moins loin qu'en NBA. Quoi.
Exactement. Donc, c'est les mêmes distances, le même temps de jeu, c'est exactement pareil.
Et ça, c'est 4 cartons de 10 minutes.
Pareil, 4 cartons de 10 minutes, donc aucune différence. Et aussi, il y a le marché, pour ceux qui ne savent pas. Quand on a le ballon sur les genoux, on n'a pas le droit de pousser son fauteuil plus de 2 fois.
D'accord.
Donc, on est obligé de dribbler, passer ou shooter entre 2 poussées de roue. Donc, ça augmente la difficulté. C'est pour ça que c'est assez dur, même pour une personne qui a fait du basket. On le met sur un fauteuil de basket, il aura du mal un peu à avancer, dribbler et avec le fauteuil.
Certains réflexes à apprivoiser, évidemment. Tu parlais de rebond qu'on prend sur une roue.
Oui.
Et ça, c'est quelque chose. Je vais parler d'acrobatie parce que sur une roue de fauteuil, on s'entraîne déjà pour se mettre dans cette position-là, ou c'est instinctif, on voit le ballon et tout d'un coup, on fait le mouvement qu'il faut.
On s'entraîne, mais puis c'est vrai qu'on est attaché sur le fauteuil, donc instinctivement aussi, quand on va chercher un rebond, on se tire, on soulève jusqu'en haut, donc on lève le fauteuil. Puis on a des fauteuils qui sont tellement légers. Tellement ils sont faits sur mesure aussi, c'est pour ça qu'ils coûtent assez cher. Hein. Un fauteuil de basket très haut niveau, le maximum, on peut arriver à 12 000, 13 000 euros. Le fauteuil. Ouais. Donc c'est fait en aluminium ou en titane, donc c'est fait sur mesure, donc ça prend du temps et forcément ça coûte cher.
Sofiane, avant de te libérer, j'imagine que tu te passionnes également pour l'Euroleague, la NBA. Je rappelle que Monaco a égalisé hier à 1-1 face à Fenerbahçe en Euroleague. Prochain match, ce sera mercredi en Turquie, c'est les quarts de finale. Est-ce que tu vois Monaco aller au bout, oui ou non? Ça te paraît possible?
C'est possible. Fenerbahçe chez eux, ça va être difficile quand même. Ça va être dur, mais tout est possible.
Pronostic pour le titre NBA cette saison, les playoffs, premier tour sont en cours. Une équipe.
Je pourrais pas dire. Je sais pas trop. J'ai pas trop suivi parce que j'étais en tournoi, donc c'était un peu compliqué. Mais je pourrais pas. Toi, t'en penses quoi?
Moi, je mettrais Boston ou Denver.
Ouais, Boston.
C'est pas très audacieux comme pari. Allez, avant de te libérer, Sofiane, c'est la tradition lorsqu'on reçoit des athlètes qui se préparent aux Jeux Olympiques ou Paralympiques. On aime bien rentrer dans les cuisines de la préparation. Est-ce qu'il y a une playlist fétiche, une série Netflix ou Amazon ou autre devant laquelle tu aimes te détendre, ou je sais pas, la musique qui t'aide à te préparer à rentrer dans tes rencontres?
Pas forcément la musique, mais c'est vrai que la veille des matchs, j'aime bien.
Un plat préféré pour dîner la veille d'un match, non?
Non, pas forcément les plats, mais c'est vrai que la veille de match, j'aime bien me voir des films sur le basket, je sais pas pourquoi. J'ai un film qui s'appelle Glory Road aussi, qui peut être sympa, ou la série avec Jordan, je sais pas, ça me motive. C'est aussi Le Plus Beau des Combats avec Denzel Washington, donc c'est des films voilà, sur le sport, où il y a une belle histoire et ça me motive.
Et ça t'aide à te concentrer pour les échéances.
Et me dépasser, ouais, exactement.
À venir. Sofiane Meyaoui, meneur de jeu de l'équipe de France de basket fauteuil, était notre invité dans En route pour Paris 2024, cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques le 28 août prochain. Merci beaucoup.
Merci.
Vous êtes passé par le studio de l'Intégra Sport. On va suivre évidemment votre préparation. L'équipe de France masculine qualifiée donc plus de 20 ans après sa dernière participation pour ces Jeux Paralympiques, réduit de 12 à 8 équipes.
Exactement, réduit à 8 équipes. Merci pour l'invitation.
On veut la médaille.
Merci.
Quand tu veux, merci beaucoup pour ta disponibilité. En route pour Paris 2024, c'est votre magazine olympique, évidemment, chaque samedi, chaque dimanche sur RMC. Vous ne bougez pas, on le poursuit dans quelques instants dans l'Intégral Sport. On poursuit notre magazine olympique En route pour Paris 2024. Il est temps de faire le point sur toutes les infos de la semaine avec Léna Marzac, une de nos spécialistes de la rédaction RMC Sport. Salut Léna.
Salut Simon, salut à tous.
Alors, qu'est-ce qu'on a au menu cette semaine? Un test event d'équitation pour les Jeux Olympiques.
Oui, alors cet été, toutes les épreuves se dérouleront à Versailles, mais le site n'est pas encore prêt. Il a donc fallu organiser ce test event à Fontainebleau lors du printemps des sports équestres, une semaine de compétition où toutes les disciplines olympiques et paralympiques sont réunies. Concours complet, saut d'obstacle, dressage et paradressage. Et Pauline Basquin, la numéro 1 française de dressage, sait que cette semaine est importante.
Oui, c'est une compétition importante ce week-end parce qu'on est tous là. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés tous ensemble, les 5 cavaliers de l'équipe de France. À partir de maintenant, on n'a plus trop de droit à l'erreur. Les choses sérieuses commencent aujourd'hui. On repart à zéro à partir de Fontainebleau. Et là, c'est la dernière ligne droite avant les Jeux.
Et tout le staff français est d'ailleurs présent pour observer les cavaliers, faire le point sur l'état de forme des chevaux aussi. Mais pour Simon Delestre, le numéro 2 français en saut d'obstacle, cette semaine de compétition n'est qu'un point d'étape.
Tous les concours comptent et sont importants à partir de maintenant jusqu'au jeu. Je dirais que c'est un peu le début du moment où on a envie de monter les chevaux en puissance. Il ne s'agit pas d'être à 100% aujourd'hui pour descendre à 90 au jeu, c'est l'inverse qu'il nous faut. C'est être aux alentours de 90 aujourd'hui pour monter jusqu'à 100% au jeu.
Ce test event à Fontainebleau permet surtout aux équipes organisatrices des Jeux Olympiques de se préparer au mieux. À 3 mois de l'événement, Sylvie Robert est la présidente de GL Events Equestrian Sport.
Il était important pour nous, et en collaboration bien entendu avec la Fédération Équestre Internationale et la Fédération Française d'Équitation, de pouvoir nous préparer au mieux avec tous les officiels, tous les nationaux et internationaux de compétition qui seront là avec nous cet été à Versailles. Pour l'instant, on est assez tout à fait satisfait. On a des réglages à faire et c'est l'objectif d'un test opérationnel et de cette répétition générale. Mais je crois que les cavaliers sont contents et je crois que tout le monde est satisfait avec les ajustements qu'il faut que nous mettions en place.
Cette édition du printemps des sports équestres a d'ailleurs attiré plus de cavaliers étrangers qu'en temps normal. Tous avaient l'envie de se tester et surtout prendre confiance lors d'une compétition en France à 3 mois des Jeux Olympiques.
Du judo, Léna, avec cette médaille de bronze en judo, évidemment, pour Johan Benjamin Gavin au championnat d'Europe.
Oui, c'est sa première médaille individuelle dans un grand championnat. Hier, en moins de 73 kilos, Johan Benjamin Gavin s'est imposé face à un Finlandais pour aller chercher cette belle médaille de bronze à Zagreb au championnat d'Europe.
Une médaille qui tombe à pic. Je l'attendais. J'ai montré ce que j'avais à montrer. J'ai montré que j'étais là. Depuis ma sélection au jeu, je fais que de penser à ça. C'était ma compète. Je me suis dit, là-bas, il faut que je mette tout le monde d'accord. Et voilà ce que j'ai fait. Et voilà, là, c'est la place de troisième que j'ai eue. Mais en tout cas, je vais encore retourner au travail pour avoir la médaille d'or la prochaine fois.
Une médaille donc pleine de promesses pour le judoka de 23 ans. Le mois prochain, il sera à Abu Dhabi. Il tentera d'aller chercher une médaille. Là, ce sera au championnat du monde avant donc les Jeux Olympiques cet été.
En badminton, Léna, on a suivi cette polémique. La Fédération française qui demande la qualification exceptionnelle de 2 paires de doubles hommes aux prochains Jeux.
Oui, on va faire un petit rappel parce qu'il y a eu une erreur de calcul qui a chamboulé donc le classement de qualification olympique en double homme. La paire Ronan Labarre et Lucas Corvée, qui était donc numéro 1 française, se retrouve finalement derrière les frères Popov, Christo et Thomas Junior. Donc Ronan Labarre et Lucas Corvée sont privés de Jeux Olympiques, mais Johan Penel, le président de la Fédération française, demande aux instances internationales de trouver une solution rapidement.
Notre proposition de sortie de crise, c'est effectivement de qualifier les 2 paires françaises, à la fois celle qui est qualifiée au regard du classement actuel et qui est une réalité mathématique, et de qualifier la paire qui, au regard de l'aspect sportif, s'est qualifiée, puisque elle a été devant encore jusqu'au 15 avril. Et c'est la solution qui nous paraît la plus adaptée à la situation dans laquelle ils se sont mis tout seuls.
Alors, ce sont les représentants de la Fédération internationale de badminton c'est eux qui sont à l'origine de cette erreur de calcul. Et justement, une assemblée générale de la BWF, donc la Fédération internationale de badminton, doit se tenir aujourd'hui en Chine et le sujet sera forcément évoqué.
Forcément, et on espère qu'on va revenir sur cette erreur de calcul, puisque en attendant, la Fédération française de bad, comme disent les spécialistes, a dévoilé les qualifiés pour les Jeux paralympiques.
Et oui, alors malgré tout, toute cette affaire, il y a quand même de bonnes nouvelles. Cette fois, ce sont pour les parabadistes français. Ils seront 7, donc présents aux Jeux paralympiques de Paris. Et on retrouve notamment Lucas Mazur, champion paralympique à Tokyo, ou encore Faustine Noël. Elle sera également de la partie, elle qui reste sur une belle médaille d'argent à Tokyo en mixte.
De l'équitation, du judo, du badminton, vous êtes évidemment dans votre magazine olympique en route pour Paris 2024. On fait le point avec Léna Marjac, notre spécialiste de la rédaction RMC Sport, sur toutes les infos de la semaine de l'actualité olympique. Léna, on reste dans les sports de raquette avec du tennis de table, cette fois le classement qui a évolué pour nos Français en ping.
Et oui, alors il faut le rappeler, la France n'a que 2 places pour le simple homme. Félix Lebrun, 6e mondial, est lui plus ou moins assuré d'avoir sa place au jeu en individuel, mais pour son grand frère Alexis, rien n'est fait encore. Il vient de se faire passer devant par Simon Gauzy, 10 places maintenant les séparent au classement. Alors il reste encore des tournois d'ici la fin de la qualification olympique. Ce sera ensuite le comité de sélection de la fédération qui choisira quel pongiste envoyer en simple aux Jeux Olympiques, mais quand même, dans tous les cas, Alexis Lebrun sera de la partie cet été, au moins pour le par équipe. On devrait avoir les 2 frères, en tout cas.
Le double avec le frangin, évidemment.
Voilà, on espère de
on
voir ça.
On veut les voir monter sur la table.
Mais je crois qu'il y a une histoire de composition d'équipe qui fait que c'est pas sûr que Alexis et Félix soient en double en par équipe. Ce serait plutôt Alexis et Simon Gauzy.
Bon,
pour assurer pas. Félix de jouer deux matchs de simple.
Ah d'accord, voilà. Formidable. Toutes les infos inside avec Léna Marjac, évidemment. Léna, on va quitter un petit peu les terrains et les cours quelques instants pour parler de la sécurité de la cérémonie d'ouverture, notamment hein, sur la scène, faut-il le rappeler. Un vrai enjeu, notamment pour Laurent Nunez, le préfet de Paris, qui a détaillé de nouveau les périmètres de sécurité.
Oui, il a refait une très longue conférence de presse pour nous parler de ces fameux périmètres de sécurité. Il y en aura donc deux qui vont être mis en place le long de la Seine, 8 jours avant le début de la cérémonie d'ouverture, donc dès le 18 juillet. Il y aura donc un premier périmètre gris, périmètre antiterroriste et de protection. Et autour de celui-là s'ajoute le périmètre rouge d'interdiction de circulation motorisée. Il y aura donc de nombreux contrôles qui seront effectués pour les riverains et les automobilistes. Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, a expliqué ces mesures en conférence de presse. Écoutez.
Dans le périmètre de protection, tout le monde est soumis à contrôle. Donc, bon, les piétons sont soumis à contrôle et devront demander une attestation. Il y aura une enquête administrative. On ne circule pas librement. Les piétons, ils rentrent parce qu'ils sont riverains, ils rentrent parce qu'ils vont dans un restaurant, ils devront avoir réservé. Même chose pour les hôteliers. On devra avoir des justificatifs de sa raison d'entrée. Pour ceux qui veulent rentrer en véhicule, on a quelques dérogations, mais qui sont très limitées. Mais dans le périmètre gris, c'est vraiment limité aux livraisons, aux interventions d'urgence, aux dépannages urgents où on tolérera le véhicule et uniquement jusqu'au 26 juillet, 13h. Après, ce sera complètement fermé. Et ça sera exclusivement réservé aux véhicules de secours, ou le cas échéant, bien sûr, aux organisateurs qui peuvent rentrer pour aller sur le périmètre de la cérémonie.
Et à noter aussi que des stations de métro seront fermées dans ces périmètres sur les lignes, notamment 5, 7, 9 ou encore la 10. Ça risque de chambouler donc un petit peu la vie des Parisiens. Et Laurent Nunez qui évoque donc le 26 juillet, 13h, c'est le jour J de la cérémonie d'ouverture. Et donc, à partir de 7h, il sera presque impossible de circuler dans ces zones, sauf pour les détenteurs de billets pour la cérémonie et donc les riverains avec une dérogation.
Oui, on n'avait même pas besoin de Laurent Nunez pour savoir que le 26 juillet, si on peut éviter de se déplacer ou remettre au lendemain ou prévoir un petit peu en avance. Merci beaucoup Léna pour cette page d'actualité olympique. Le meilleur de la rédaction RMC Sport pour vous faire vivre, vous faire suivre l'actualité olympique chaque week-end. En route pour Paris 2024, votre rendez-vous olympique. Merci beaucoup Léna.